Radio Kapi. Le journal, Lievin Mwinga à la présentation.
Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à la une de l'actualité. D'abord cette interrogation, est-ce enfin le retour normal des enseignants dans les écoles résistantes à la rentrée scolaire? En tout cas, un appel a été lancé dans ce sens par les syndicats CIECO et CINECAT après discussion avec la ministre de l'Éducation nationale. Mais vous le verrez, l'effectivité de cette mesure pose encore problème malgré ce double appel. Satisfaction des participants après la réunion d'évaluation des projets appuyés par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, des projets liés à la participation de la femme et des jeunes dans la gouvernance locale. Au total, 48 millions de dollars américains ont été décaissés. Notre invité est Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC, STARES, au Nord Kivu. Lui a plutôt identifié les projets d'infrastructures socio-économiques de base à financer. Voilà, c'est tout pour les titres. L'actualité, c'est cet appel de reprise de craie lancé par les syndicats CIECO et CINECAT après l'abandon de la rentrée scolaire observée dans le chef de certains enseignants de quelques coins de la RDC. Et pourtant, ces principales organisations syndicales des enseignants du Congo ont décrété la fin des perturbations observées au sein des écoles publiques. Elles ont demandé dans une déclaration aux enseignants ce week-end de reprendre les cours dès hier lundi 7 octobre. Cette déclaration est consécutive aux rencontres qui se sont succédées samedi et dimanche avec la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou. D'après le secrétaire général adjoint ad intérim du CINECAT, Jean-Denis Nzeza, certaines revendications ont trouvé gain de cause et les discussions se poursuivent avec le gouvernement pour une solution durable. On l'écoute sur des propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
Vu l'urgence, le secrétariat général du CINECAT s'est réuni ce dimanche 6 octobre 2024 pour évaluer la situation qui prévaut présentement dans les écoles catholiques. À l'issue des échanges avec les autorités hiérarchiques du ministère de l'Éducation, il a constaté ce qui suit. Les paiements effectifs de l'ajout au salaire promis à tous les enseignants à Bibois au mois d'août. 2. Les paiements effectifs des primes de gratuité aux enseignants du primaire, juillet et août, septembre aussi. Et par conséquent, nous demandons aux enseignants n'ayant pas encore repris le travail d'emboîter le pas à leurs collègues qui pressent déjà dès ce lundi 7 octobre 2024. Et prenons l'engagement de continuer les négociations avec le banc gouvernemental pour trouver des solutions idoines à nos revendications.
Mais il y a un problème. Malgré ce double appel du CIECO et du CINECAT depuis Kinshasa à tous les enseignants de reprendre les cours, cette mesure n'a visiblement pas été suivie dans la plupart des provinces où certains syndicats durcissent d'ailleurs le mouvement de grève plus d'un mois après la rentrée des classes. Selon nos reporters qui ont effectué la ronde hier lundi, dans certains établissements scolaires, il y a seulement les écoles privées qui fonctionnent normalement. Dans le secteur public, les enseignants grévistes conditionnent la reprise des cours par la réponse à leurs revendications, notamment la paye complémentaire de 500 dollars américains. Grâce Hamzati nous donne un aperçu général de la rentrée scolaire à travers le pays.
Si dans la plupart des écoles, tant publiques que privées de Kinshasa, les cours se déroulent normalement, au Nord Kivu, la rentrée scolaire n'est pas effective dans les écoles publiques de Goma. D'après le syndicat Fosinat, aucune évolution n'a été enregistrée par rapport aux revendications des enseignants. Même situation au Sud Kivu et au Maniema où les élèves de la majorité d'écoles publiques n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Dans la province éducationnelle Kwilu 1, l'intersyndicale des enseignants a réitéré son appel aux parents ce lundi de garder leurs enfants à la maison. Dans la province éducationnelle Nord Kivu 2, couvrant les régions de Beni, Butembo et Lubero, la grève des enseignants s'y poursuit dans la grande majorité des écoles publiques. Cependant, la confusion règne dans la province du Tanganyika où certaines écoles publiques fonctionnent, mais d'autres en grève. C'est le cas des Kalemie villes et territoires ainsi que les territoires des Nyunzu où seules les écoles secondaires fonctionnent. À Kisangani dans la Tchopo, la grève est observée seulement dans quelques écoles, notamment celle de Lubunga. Au Kasaï oriental, les cours ont repris depuis bientôt 2 semaines dans plusieurs écoles publiques de la province. Cependant, le syndicat des enseignants du Congo CIECO Chilenge, à plus de 30 km de Mbujimayi, persiste et signe pour la non-reprise des cours. Par ailleurs, il n'y a pas grève à Kananga au Kasaï central et même à Mbandaka dans l'Équateur.
Situation pas du tout intéressante non plus du côté de la ville de Matadi. Avant de clore ce dossier, cette reprise des activités scolaires prévue hier lundi après la levée de la grève dimanche par l'intersyndicale des enseignants du Congo central n'a pas été effective. On a plutôt assisté à la perturbation des cours dans les écoles où les enseignants étaient en pleine activité dans les salles de classe. À l'origine de ce comportement, des groupes d'élèves partis des établissements qui observaient une grève sèche malgré l'appel à la reprise des cours. Ces élèves perturbateurs, majoritairement du secondaire, se sont rendus dans plusieurs écoles de Matadi où ils ont fait sortir les élèves qui suivaient les cours. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Les mouvements de désordre menés par ces élèves du secondaire de quelques écoles publiques a paralysé plusieurs établissements publics de Matadi, créant une ambiance de panique. Les éléments perturbateurs ont fait usage de jets de pierre pour obliger les responsables d'école à sortir les élèves des salles de classe. La police est intervenue pour étouffer ces mouvements en tirant des coups de feu en l'air. Après avoir été informés de la situation et pris de panique, les parents se sont précipités dans des écoles pour récupérer leurs enfants. Même son des cloches à Mwanda où les élèves des écoles publiques ont attaqué ceux des écoles privées, ce qui a paralysé les activités scolaires. À Kwilungongo, on a appris que les enseignants ont manifesté dans la rue en brûlant des pneus. Selon certaines sources, à l'origine de ces désordres se trouveraient quelques syndicalistes et des enseignants. Ces derniers ne seraient pas d'accord avec l'appel à la levée de la grève lancée dimanche par l'intersyndicale des enseignants. Ils estiment que cela a été fait sans l'accord de l'Assemblée générale des enseignants. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Voilà ce que nous pouvions dire sur ce dossier. Suite de la série sur la répartition budgétaire 2025 et la problématique des inégalités sociales en RDC à présent, avec la livraison du deuxième reportage. Nous nous penchons aujourd'hui sur le budget du secteur d'investissement qui est passé de 1 milliard à plus de 3 milliards de dollars américains. Et le Centre de recherche en finances publiques et développement salue cette réalité. Le coordonnateur du CREFDEL insiste sur la nécessité d'assurer un taux d'exécution de 100% de ce budget pour espérer voir la RDC se développer. Pour le ministre des Finances, Doudou Fouambalikoundé Libotaï, l'augmentation du budget des investissements vise à financer les secteurs producteurs afin d'assurer la stabilité de la monnaie. Suivez ce reportage de Michel Kifintangoy.
Au cours de la troïka politique de mardi de la semaine dernière, le ministre des Finances Doudou Fouamba a donné des orientations claires pour stabiliser le cadre macroéconomique et consolider la stabilité du taux d'échange sur le marché. Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique des suivis et évaluation des réformes.
Il faut augmenter la production nationale pour qu'elle ait un impact sur la stabilité de la monnaie. Il faut investir dans l'agriculture, dans les transports, dans le développement rural. Tant que nous allons continuer à dépendre infiniment des importations, cette tendance à la détérioration de notre monnaie nationale va se poursuivre.
Saluant l'augmentation du budget d'investissement de 1 à 3 milliards de dollars, le coordonnateur national de CREFDEL plaide plutôt pour la réduction des dépenses luxueuses des institutions. Valérie Madianga.
Le vrai problème aujourd'hui demeure le taux d'exécution qui est relativement très faible.
On a l'impression que le budget de l'État, c'est juste pour gérer ou payer pratiquement quelques têtes de personnes ou quelques ministères clés et l'impact de la dépense publique n'est pas ressenti.
Valérie Madianga espère voir le Parlement consolider le budget des investissements et veiller à sa stricte application afin de réduire le taux de pauvreté en RDC.
Autre nouvelle satisfaction des participants après la réunion d'évaluation des projets appuyés par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix ici à Kinshasa, des projets liés à la participation de la femme et des jeunes dans la gouvernance locale. Au total, 48 millions de dollars américains ont été décaissés par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, en vue d'appuyer 21 projets d'intérêt communautaire dans 4 provinces de la RDC. Révélation faite au cours de la réunion d'évaluation du cycle 2020-2024 tenue ce lundi à Kinshasa par le comité de pilotage du PBF. Reportage Ronly Timbonera.
La désignation des femmes à la tête de deux portefeuilles ministériels au Kasaï et la résolution pacifique des conflits intracommunautaires sont parmi les résultats tangibles obtenus dans le cadre des divers projets exécutés dans cette partie de la RDC sur financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. C'est ce qu'affirme Crispin Mukendi, gouverneur de cette province.
nous avions pu désigner ou deux femmes dans notre équipe gouvernementale. Au-delà de deux femmes sur dix, nous avions confié la régie financière de notre province à une dame.
Si au site Kivu les activités ont connu un retard dans leur exécution, Joïla Sambo exprime quand même sa satisfaction sur le fait qu'un accent particulier est mis sur les projets qui se concentrent sur les jeunes.
Et déjà avec le PBF, moi je peux certifier qu'avant la mise en œuvre, il y a eu quelques consultations où les jeunes filles comme les jeunes garçons ont souhaité à ce que certaines organisations de jeunes puissent être impliquées. Et déjà avec le projet, il y a au moins trois organisations qui vont exécuter le projet pour l'appropriation de la résolution 2050.
De son côté, les vice-premiers ministres et ministre du plan loue les résultats des cycles finissants. Guilagnembo.
Je voudrais d'emblée souligner ma satisfaction pour son déroulé qui nous a permis de nous imprégner des efforts déployés par les fonds aux côtés du gouvernement de la République pour consolider les acquis de la paix dans notre pays.
Pour rappel, ces projets sont exécutés dans la province du Kasaï, les Kasaï centrales, la province du Tanganyika et le sud Kivu.
Retour sur le drame du MV Merdi, 5 jours après le naufrage de ce bateau sur le lac Kivu, le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Intérieur, prend une série de mesures. Parmi elles figure la poursuite par les procureurs généraux des deux provinces des actions judiciaires déjà en cours contre les auteurs de ces naufrages tragiques afin qu'ils répondent de leurs actes. L'autorisation est désormais accordée aux familles éplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés, cela conformément à leurs coutumes respectives. Le gouvernement congolais rassure toutes les familles éprouvées de son accompagnement total dans l'enterrement digne et conforme aux us et coutumes des personnes décédées dans ce naufrage. Le ministre Jacquemain Chabani revient ici sur d'autres mesures. Ses propos sont recueillis par Denise Loukesso.
1. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage, notamment la division provinciale de transport et communication, la police nationale lacustre et la direction générale de migration. 2. Les gouverneurs des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu sont instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Édouard et de les faire respecter strictement, notamment d'exiger le port des gilets de sauvetage à tous les passagers au bord des unités flottantes, le contrôle technique et de conformité des 10 unités. 3. Concomitamment, les services habilités poursuivront les recherches des corps coincés dans le bateau sous les eaux afin de leur réserver un enterrement digne. Le gouvernement rassure tous les rescapés actuellement internés dans les hôpitaux de leur prise en charge.
Santé, campagne contre la variole de singe effective depuis dimanche dans le sud Kivu. Environ 29 000 doses de vaccins pour quatre zones de santé sont déjà sur place et près de 48 000 personnes sont attendues dans les zones ciblées. Le lancement a eu lieu au centre de traitement de monkeypox de l'Uiro dans la zone de santé de Miti-Mureza. Justice, arrestation hier lundi du journaliste Patrick Lokala de Télé-News RDC. Sans préjuger des faits qui lui sont reprochés, l'Union nationale de la presse du Congo dit noter avec inquiétude que cette arrestation qui a eu lieu en sa résidence devant les membres de sa famille s'est passée dans la brutalité. Dans un communiqué de presse publié ce même lundi dans la soirée, l'UNPC déplore, dénonce et condamne fermement ces actes qu'elle qualifie de barbarie et d'intolérance qui, selon elle, ne se justifie par aucun prétexte contre un citoyen dans un État qui se veut de droit perpétré par les agents de la police judiciaire détachés pour le ramener. Ainsi, pour le respect de sa dignité et de celle de tous les journalistes, l'UNPC exige des agents ayant procédé à cette arrestation qu'elle juge de honteuse des excuses publiques pour avoir filmé et diffusé sur les réseaux sociaux des scènes de torture sur la personne du journaliste, bafouant ainsi son honneur et sa dignité. Selon notre source au sein de la corporation, le confrère Patrick Lokala est détenu au parquet de grande instance de la Gombe où il a été auditionné. Jusqu'à présent, les raisons de son arrestation ne sont pas encore connues.
Actualité internationale.
Près d'un millier de traversées illégales de la Manche samedi, un record pour 2024. Le ministère britannique de l'Intérieur a enregistré samedi 973 migrants arrivés illégalement en Angleterre en traversant la Manche sur de petites embarcations. Des canaux de fortune sont de plus en plus chargés, avec désormais 52 passagers en moyenne à leur bord, contre seulement 13 en 2020.
L'invité.
Notre invité est Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC Star-Est au Nord Kivu. Il va nous parler de sa mission de 2 semaines en ville et territoire de Beni qui visait à identifier les projets d'infrastructures socio-économiques de base à financer. Il s'agit notamment de la construction des écoles publiques, des structures de santé, d'adduction d'eau potable, ainsi que de la réhabilitation de certains axes routiers urbains et de dessertes agricoles en ville et territoire de Beni. Jean-Claude Kassomo et s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Claude Kassomo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur provincial des Star-Est au Nord Kivu. Que peut-on retenir de votre mission de 2 semaines dans la ville et territoire de Beni?
Effectivement, nous étions ici à la fin du mois de juillet, début août, où nous avions parlé des opportunités par rapport au projet de stabilisation. Et nous sommes venus maintenant concrétiser. Nous sommes venus dans une mission de sensibilisation dans les communautés. Et pour nous, les communautés, ce sont les groupements en milieu rural et les quartiers en milieu urbain ici à Beni. Alors nous sommes venus échanger avec les potentiels bénéficiaires pour qu'ils puissent identifier dans un premier temps quelques projets d'infrastructures socio-économiques de base que nous pouvons financer avec leur accompagnement d'ici décembre. Nous avons retenu jusque-là 16 sous-projets, notamment 8 dans la ville de Beni et 8 en territoire de Beni que nous espérons lancer d'ici là.
Vous parlez des infrastructures socio-économiques de base. Il va s'agir de quoi concrètement?
Les infrastructures socio-économiques de base, il s'agit dans un premier temps essentiellement des écoles primaires ou secondaires et des centres de santé. Pour Beni, on a retenu 7 écoles et un centre de santé jusque-là. Et pour le territoire de Beni, on a retenu 4 écoles et un centre de promotion sociale. Les critères, c'est qu'il fallait que ce soit des écoles officielles, ça veut dire des écoles qui ont un agrément, qui ont un arrêté de création, qui fonctionnent réellement, dont les enseignants sont mécanisés. Pas tous peuvent avoir une voix. C'est ça là, les critères pour les écoles primaires et secondaires. Pour les centres de santé aussi, la même chose. Les centres de santé publics, souvent quand on dit public, hein, donc c'est même conventionné, mais qui sont des écoles de l'État, mais sous gestion des églises. Mais en plus de cela, il y a aussi les axes routiers. Parce que l'autre fois, nous parlions de Timon, nous avons dit que c'est un projet de stabilisation et de relèvement. Donc au-delà de l'aspect de construction des infrastructures de base, dans le cas de la deuxième composante, il y a les travaux à haute intensité de main d'œuvre où nous allons réhabiliter les routes. Et ici, nous avons retenu l'axe Maboya-Kantine, plus ou moins 52 km dans le territoire de Beni. Et dans la ville de Beni, on a retenu 14,3, notamment le boulevard Béou. On a retenu un tronçon de 2,3 km, y compris les ouvrages d'art, donc ponts et les ouvrages d'assainissement, mais aussi l'axe Kouka-Mavive, plus de 2 km à rouvrir pour que cet axe-là soit praticable. Et là aussi, il y a 3 ou 4 ouvrages en termes de ponts qu'il faudra aussi construire. Et il y a certains tronçons ou certains points qui peuvent nécessiter l'utilisation des machines, mais nous allons recourir à la main-d'œuvre, au cantonnage manuel. Et c'est là pour aider la population à avoir un peu de moyens de survie. Mais au-delà de cela, c'est que dans le cadre de Timon, nous visons aussi la stabilisation. Et pour cela, nous allons utiliser 25% d'ex-combattants. Et pour cela, ce sont nos partenaires des PDDRCS qui vont nous fournir cette main-d'œuvre-là d'ex-combattants, moyennant des certificats. Et c'est une façon pour nous de contribuer dans ces programmes-là, dans le volet réinsertion.
Et alors, quelle sera la part ou la contribution de la population, de la communauté, dans la réalisation ou l'exécution de ces projets?
Pour le moment, nous n'avons pas exigé la contribution des bénéficiaires en termes d'espèce ou en termes de nature, mais nous exigeons leur participation en termes d'implication. Ce sont leurs projets, c'est eux-mêmes qui ont désigné leurs projets sans notre influence et nous exigeons de l'implication dans toutes les phases de mise en œuvre du projet pour qu'ils se rassurent que leurs projets puissent aller jusqu'à la fin. Et même la phase d'entretien, ce n'est pas le projet qui fera l'entretien. Donc, dès le début du projet, il faut qu'ils s'impliquent parce que la main-d'œuvre locale proviendra de la communauté. À moins qu'on ne puisse pas trouver la main-d'œuvre dont on a besoin, mais l'exigence, c'est que nous puissions nous appuyer sur la main-d'œuvre locale recrutée, que ce soit les maçons, que ce soit les aides-maçons, que ce soit les charpentiers. Mais quand on ne trouve pas localement, l'entrepreneur peut recourir ailleurs. Et puis pour les routes, la même chose aussi. Il y aura le tirage au sort pour les travaux intensifs de main-d'œuvre. On va d'abord passer à l'identification des bénéficiaires. Mais nous sentons qu'il y a la résilience. La population veut aller de l'avant. Et dans beaucoup de coins, nous sommes arrivés, on nous dit qu'il y a 5 ans ou 6 ans, il n'y avait plus de gens. Mais on trouve qu'il y a une reprise timide dans certains coins. Dans d'autres coins, la vie a repris et nous voulons qu'ensemble, nous puissions travailler main dans la main pour produire des résultats d'ici 3 mois ou 4 mois. Et surtout que c'est un projet de 5 ans. Donc nous allons continuer à travailler ensemble avec la population du territoire de Beni et de la ville de Beni.
Jean-Claude Kassom, merci.
Je vous en prie.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujango, à Pelé Kipela Mondo, à Junior Kamunga et à Dieudonné Nyangasa.